Bonjour à toutes et à tous, 64e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Ouais, impeccable.
Bien remis des visites proposées à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end.
Oui, très belle visite avec une bonne quarantaine de personnes vraiment intéressées. Mm-hmm. Ça a été vraiment un très bon moment d'échange. Et alors, pour la première fois de ma vie,
ouais,
je suis tombé, comme quoi,
aïe,
tu vois, c'est bizarre. Non, je suis tombé,
ah bon,
ça va,
ah ouais, non,
pas fait mal.
Non, d'accord.
Je suis tombé sur le fils d'un vétéran américain.
Oh.
Alors, accroche-toi,
ouais,
qui vit à Sébazac.
Ah ben, écoute.
Qui est venu, il a vu Seconde Guerre mondiale, il s'est intéressé.
Ben, ouais.
Il est venu sur la visite guidée. Et alors, on va rester en contact.
Ah, bah,
il va m'expliquer un petit peu ce qu'a fait son père. Apparemment, il a débarqué en janvier 45 dans un port du nord de la France.
Ah, ouais.
Il a tout de suite rejoint l'Alsace pour se battre.
D'accord, bah ouais.
Et il a été apparemment très grièvement blessé par un éclat d'obus, que son fils a toujours, d'ailleurs.
L'éclat d'obus?
L'éclat d'obus.
Ah, bah, d'accord.
Mais ça se faisait beaucoup, tu sais, à l'époque.
Oui, gardez, oui.
Et on t'opérait, vous voulez le garder?
Oui, c'est comme l'appendicite, vous voulez la garder?
Ouais, c'est comme l'appendicite, c'est ça. Et donc voilà, donc il va pourra me raconter tout ça, mais tu vois, c'est
super.
Le Rodez de la Seconde Guerre mondiale arrive même nous conduit même à des vétérans américains, c'est rigolo.
Bah ouais, c'est super.
Ouais.
Et puis il aura peut-être l'occasion de te montrer quelques souvenirs de
famille.
Ah
oui, sûrement, j'espère.
Ouais, ouais, ouais. T'es un grand amateur, évidemment, Vincent. Alors, je rappelle d'ailleurs aussi que tu es président bien sûr du comité Rodez du souvenir français, hein, Vincent.
Oui, tout est lié.
Alors cette semaine, non, pas de Seconde Guerre mondiale au programme.
Non.
On remonte un petit peu plus loin dans le temps avec toi, Vincent.
Oui, nous partons pour le 19e siècle.
Mmh.
C'est pas très loin quand même.
Non, ça va.
Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite fille pauvre de Saint-Geniest d'Olt.
Ah, c'est pas Cosette.
Qui va devenir une très grande dame de son temps.
Ouais.
Il s'agit alors presque d'un conte de fées, c'est ce que nous allons voir.
Mmh.
J'ai dit presque.
Ouais.
Quand même. Je vais vous parler aujourd'hui de Marie Talabot. Est-ce que tu connais Marie Talabot?
Deux noms.
Ouais.
Saint-Geniès, par rapport à Saint-Geniès, je sais plus, elle a pu une statue là-bas, un monument, mais à part ça, non.
Ouais, elle a un très très beau monument funéraire,
oui.
on en parlera à la fin.
À part ça, je sais pas, Vincent,
Et on le voit, enfin, quand tu vois
Saint-Geniès, ouais,
même si tu sais pas ce que c'est, tu le vois, tu peux pas le louper. Alors, avant de devenir Marie Talabot, elle est née Marie-Anne Savy.
D'accord.
Le 15 décembre 1822, à Saint-Geniès d'Olt, sous le règne du roi Louis XVIII.
Mmh.
Son père, Antoine Savy, est tisserand à domicile.
D'accord.
Saint-Geniès, apparemment, pendant très très longtemps, ça a été une ville consacrée au tissu.
Ah ouais.
Les bords du Lot, si tu veux, ça a aidé beaucoup. Soit les bords des rivières, comme ça, on trouvait des tanneurs, on trouvait également des tisserands.
Ouais, puis même pour transporter tout le matos, les fleuves,
aussi,
les rivières, c'est pratique.
Forcément, ça a aidé beaucoup. Il a une soixantaine d'années quand Marie vient au monde. En fait, il est déjà père de plusieurs grands-enfants.
Ouais.
Et la mère de Marie-Anne, en fait, est sa quatrième épouse.
Ah, c'est ce que j'allais te dire. J'étais en train de me dire. Sa quatrième épouse?
Quatrième épouse.
Ah,
il s'est marié en 1784.
D'accord.
En 1802.
Ouais.
En 1812.
Ouais.
Et en janvier 1822, tout juste 12 mois, il était temps.
Mmh.
Ça devait commencer à presser. Il s'est marié 12 mois avant la naissance de Marie-Anne.
Eh, dis donc, parce que c'était vraiment l'époque juste après la Révolution. Bon,
ouais.
Parce que sinon, j'ai envie de te dire, se marier 4 fois à l'époque, non, c'était pas possible. Mais là où à la Révolution, on pouvait y aller. Hein.
Les divorces,
pas de problème.
Mais bon, dans les campagnes, les divorces, c'est quand même pas répandu. Tu sais, c'est plutôt,
oui, on sépare.
C'est plutôt une maladie des villes, ça, à l'époque. Même si maintenant, à la campagne, on divorce autant qu'à la ville.
Bien sûr.
Ouais, je sais pas de quoi elles sont mortes. Alors, est-ce que c'est des divorces? Est-ce qu'elles sont mortes? Je sais pas. À l'âge de 5 ans,
oui,
Marie-Anne, malheureusement, perd sa mère prématurément à l'âge de 45 ans. Donc, tu vois, elle l'a eu déjà à 40 ans.
Mm-hmm.
Hein. La pauvrette est alors placée à l'orphelinat de l'hospice de la ville qui est tenu par les religieuses de Notre-Dame de France.
Parce que le père, il a dit non merci?
Le père était trop vieux, quoi. Le père était vieux,
une
enfant relativement jeune comme ça.
Ans.
En plus, financièrement, je crois que ça c'était pas forcément bien terrible.
D'accord.
Donc, si tu veux, à l'époque, tu sais, les hommes qui s'occupent des enfants,
Encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui, mais il y en a heureusement, il y en a de plus en plus.
Mmh.
J'en sais quelque chose.
Ouais.
Mais c'est vraiment très très moderne, très très moderne. À 9 ans, Marianne est employée dans l'industrie textile, qui était, comme je l'ai dit, vraiment très florissante à Saint-Geniès.
Au boulot.
9 ans, c'est l'âge légal.
Ah ouais?
Ouais. À 12 ans, ben, on le voit dans les mines. Hein.
Ouais, mais je pensais pas c'est que c'était légal. C'était bon,
les tout petits, ouais. Tu le vois dans les films, tu le vois au musée de la mine à Aubin aussi. Ouais. Je crois, ben, ça correspond à peu près à ça. Ouais, je crois qu'on les appelait les galibots.
D'accord.
Tu sais, ouais, c'est ça, ça doit correspondre à 9 ans.
9 ans. Ouais, remarque, ouais. C'est petit, ça se faut.
Et en plus, tu sais, les enfants étaient recherchés parce qu'avec leurs petites mains, oui. Ils pouvaient faire des choses que les adultes ne pouvaient pas forcément
faire. Tout à fait, même les galeries, c'est plus pratique.
Bien sûr, ne serait-ce que par leur taille à eux ou la taille de leurs mains.
Il y a des histoires anciennes autour de ça que je raconterai pas.
Ouais. Ouais. À 12 ans, elle est placée comme bonne dans une famille bourgeoise qui possédait également une fabrique de draps.
Uh-huh.
En 1837, Marianne a 15 ans. L'industrie du textile se porte assez mal à ce moment-là.
Déjà ?
Ouais. Et ses patrons, en fait, doivent, pour des raisons financières, se séparer d'elle.
Uh-huh.
Ils la recommandent à M. Freycinet, un ami négociant de Marseille, qui la prend à son service.
On se refile les bonnes.
C'est
comme ça.
Okay, c'est d'accord. Ça. Mmh. Bon, si on refile à quelqu'un, sauf si on l'aime pas, c'est que forcément,
ouais.
La personne qui travaille chez soi et voilà donne quand même satisfaction.
Oui.
Sauf si t'aimes pas la personne et que tu veux lui refiler un canard boiteux, mais ça c'est autre chose. Marianne quitte donc les rives du Lot pour les bords de la Méditerranée où elle est employée comme domestique. Les Freycinets sont vraiment des notables de Marseille. Marianne est appréciée pour son travail et rapidement elle devient femme de chambre de 6 des 12 enfants de la famille Freycinet.
Belle famille.
Ouais, belle famille. Mais elle s'amourache d'un des fils.
Eh ben voilà.
Et voilà.
Comme d'hab.
Et les Freycinet décident de se séparer d'elle.
Ah ouais. Ah oui, une bonne, c'est pas possible.
Et oui, parce que voilà, t'as des familles, tu sais, tu restes dans ta caste et les castes inférieures, c'est pas dans la bourgeoisie, surtout à cette époque-là.
Ça passe pas.
Chacun chez soi.
Ouais.
Ils la confient également à un de leurs amis, Paulin Talabot, qui habite Nîmes.
D'accord, donc il refile la bonne encore à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est c'est ça. En fait, il est un très beau parti.
Ah.
Il est ingénieur, polytechnicien et promis à un très 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 bel avenir.
Ah, oui.
En effet, il sera banquier, homme d'affaires, homme politique. De 1862 à 1882, il devient dirigeant de la société ferroviaire PLM.
Paris-Lyon-Marseille.
Paris-Lyon. Alors moi, j'ai fait la même erreur que toi au début, j'ai vérifié.
Ah merde.
Paris-Lyon-Méditerranée.
Ah, Méditerranée, d'accord.
Mais j'ai fait la même erreur que toi.
Okay.
En plus, on parlait de Marseille juste avant. Il participe également à la fondation de certaines banques, comme par exemple la Société Générale.
Oh, dingue.
Et il sera aussi député et président du conseil départemental du Gard dans les années 1860.
Oh, donc un homme d'influence, de pouvoir et d'argent.
Beaucoup d'argent.
On peut y aller.
Ouais, voilà. Beaucoup d'argent, c'est ce qu'on va voir. Marianne Savy et Paulin Talabot deviennent rapidement...
Amants.
Il paraît qu'elle était jolie, quand même jolie. Ouais. Ils ont 23 ans d'écart.
Ouais, bah,
au 19e siècle, ça allait.
Ouais.
C'était pas rare.
Ouais.
Je crois qu'au 18e siècle, tu sais, quand on mariait des
filles jeunettes
de 15 ou 16 ou 17 ans à des papis de 70, 80 ans, c'était. Voilà, bon, c'était autre chose.
23 ans d'écart, mais elle n'avait pas 12 ans.
Non.
Voilà,
Oui.
Okay.
Le couple quitte Nîmes en 1854 pour s'installer à Paris dans la toute nouvelle rue de Rivoli.
Ah ouais, dis donc, en face du jardin des Tuileries.
Ouais, donc
tu
vois un petit peu, quand je te disais qu'il y avait des sous, à cette époque-là, surtout Rivoli, c'est tout neuf.
Ouais, c'est presque, on n'était pas dans la banlieue, parce que c'était Paris, mais c'était presque la campagne.
Ouais, c'est ça. Comme l'Arc de Triomphe, quand il a été créé,
au milieu des
champs. Au début, c'était vraiment la campagne. Ouais. Marianne se fait appeler Marie. Elle développe alors son éducation mondaine, perfectionne son français et étudie même l'anglais.
Ils vont
partir de temps en temps en voyage en Angleterre.
Mm-hmm.
Elle découvre l'opéra, le théâtre et fréquente également les salons mondains et les salons littéraires.
Le grand
Paris.
Mm-hmm.
Après avoir vécu ensemble plusieurs années sans être mariés, ils officialisent enfin leur relation en se mariant à Paris le 11 novembre 1857.
D'accord.
Donc tout ça, nous sommes sous Napoléon III, sous le Second Empire. Marianne Savy devient alors Madame Marie Talabot. Ils partagent leur vie entre Paris et Marseille, où ils font construire un château néo-gothique à partir de 1860. Très beau château.
Il y est toujours ?
Il y est toujours, il
existe
toujours.
D'accord.
Marie tient salon à Paris, où elle reçoit les grands de ce monde. Alors, il se raconte qu'elle aurait reçu chez elle. Alors, accrochez-vous, cher
auditeur. Ouais, vas-y.
D'abord, à commencer par l'empereur Napoléon III.
Déjà.
Quand même.
Bonjour,
déjà,
monsieur.
Déjà. Enfin, bonjour, chez elle, hein, ouais, c'est même pas lui qui la reçoit, c'est elle qui le reçoit.
Un ami de la famille. Enfin,
c'est
un ami,
oui. Le baron Haussmann.
Ah oui.
Gambetta. Oh. Les peintres Delacroix, Cézanne et Ingres.
Ah bon, donc les
impressionnistes. Le diplomate Ferdinand de Lesseps.
Ah, celui qui a créé le...
Alors vas-y.
Le canal de Suez.
Ah, bravo, bravo, bravo.
Ouais, qui
a galéré. Et alors, un illustre inconnu, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, lui. Le nom m'a dit quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Un certain, comment il s'appelle ? Gustave Eiffel.
Ouais, donc elle connaissait tous les gens les plus célèbres, les plus influents de l'époque.
C'est
les
ça.
Gens,
ouais.
dans le move. Ouais.
Et bien d'autres.
Ouais.
Mais Gustave Eiffel, on va le voir à la fin... Je sais pas si elle a bien fait de le rencontrer.
Ah bon ?
On verra à la fin.
Ah bah d'accord.
Je laisse le suspense.
Si c'est passé.
Elle est également reconnue pour sa vertu et son dévouement à faire le bien, notamment avec les pauvres et les bonnes œuvres.
Ah, c'est bien.
Elle devient également la bienfaitrice de son village natal, Saint-Geniès.
Ah,
Elle n'oublie pas en fait les heures sombres de son enfance où elle était dans cet orphelinat et où elle était vraiment pauvre et verse d'importantes sommes d'argent à l'hospice et à l'orphelinat de Saint-Geniès, donc où elle avait passé vraiment une partie de son enfance. Malgré sa vie mondaine, elle est restée très attachée à son Aveyron natal. Elle y retournera plusieurs fois et conserve une très grande amitié avec Madame Palangier, son ancienne patronne à Saint-Geniès, ainsi que l'abbé Bessières, curé de Saint-Geniès. Ouais, elle garde une amitié, de des correspondances, les fois où elle peut se sauver pour aller
donc
à Saint-Geniès, elle va les retrouver.
Parce qu'une enfance dans un orphelinat, tu te dis, c'est pas belle, elle va garder un... C'est une belle période pour
oui,
elle,
c'est
elle
ça. Garder un bon une belle période, je sais pas, mais tu vois, elle a gardé, voilà, monsieur le curé.
Vraiment, elle avait pas été maltraitée.
Sa patronne, pour garder quand même sa patronne comme amie, je veux dire, faut que ça se passe bien, parce que sinon, voilà.
Pas tout le monde.
Elle vient financièrement en aide à la commune, par exemple, lorsqu'elle est ravagée par de très graves inondations.
Ah ouais.
Il y a de très graves inondations à cette époque-là, vers le Second Empire. Ouais. Beaucoup de choses sont détruites. Beaucoup de gens se retrouvent vraiment, vraiment, alors pas peut-être pas à la rue, mais vraiment, c'est vraiment compliqué. Ouais. Elle et son mari vont donner beaucoup d'argent pour pouvoir refaire plein de choses au niveau communal, au niveau aussi de certaines personnes. Elle surveille vraiment ce qui se passe à Saint-Geniès et quand il faut aider, elle est là.
Mmh.
Paulin Talabot meurt à Paris en 1885. Marie est alors âgée de 62 ans.
Oui, il a vécu vieux son mari, parce que tu rajoutes 23 ans.
C'est... Oui.
D'accord.
Elle devient l'une des femmes les plus riches de son époque.
Ah.
Ça peut aider.
Sûrement, oui.
Elle tombe malade en 1889. Mmh. 1889. Je t'ai parlé de
Tour Eiffel.
Je t'ai parlé d'Auguste Eiffel.
Position universelle, la Tour Eiffel.
On raconte qu'elle attrapera une pneumonie lors d'une visite officielle de la Tour Eiffel le 1er juin 1889.
Eh ouais.
Mais tu sais, à l'époque, il y avait
très souvent
des grandes robes, des grandes
décolletées.
Des
cols verts.
Ouais. En haut de la Tour Eiffel, c'est quand même un peu venteux.
Bah, et puis ça se visitait, ouais, même pendant le chantier. C'était tout un énorme truc.
Oui, d'accord.
Ok. Ah, la pauvre.
Ouais, elle meurt quelques mois plus tard, le 25 novembre de la même année, à Marseille, en son château du Rocasse Blanc. En 1886, elle avait pris des dispositions testamentaires concernant sa sépulture. Puisqu'on l'a vu au début, on peut voir vraiment sa très belle sépulture de partout quand on visite Saint-Geniès. Il était prévu que son corps rejoigne Saint-Geniès pour y être enterré dans un somptueux monument funéraire qui devait prendre place dans le cimetière municipal. Mais son neveu aurait négocié avec la municipalité de Saint-Geniès pour faire ériger le monument là où tous les habitants pouvaient le voir, à l'emplacement de l'ancien château qui surplombait jadis le village.
Ah oui.
Alors, vrai ou faux, ce monument a fait, et parfois fait aussi un peu l'objet d'une rumeur. Du fait de sa pauvreté, la petite Marie a passé son enfance à se faire regarder de haut par certains habitants de Saint-Geniès. C'est une rumeur, vrai ou pas, je ne sais pas.
Et là,
il se raconte qu'elle aurait dit, toujours au conditionnel, « Puisque vous m'abaissez de mon vivant, je vous dominerai après ma mort. » Pourquoi pas?
Bah oui, tout
mais c'est, bon, c'est un peu le cas. Mais pourquoi pas? Vu ce que j'ai lu, vu vraiment toute l'aide qu'elle a apportée à Saint-Geniès, je pense pas que ça soit dans son esprit. Mmh. Mais bon, tu sais, les gens riches, des fois, apportent un peu de jalousie. Vérité aux rumeurs, en fait, chers auditeurs, je vous laisse juger par vous-même. Moi, je ne le ferai pas. Ce splendide monument est l'œuvre de Lucien Magne, architecte du ministère de l'Instruction publique, des Lettres et des Beaux-Arts. Mmh. Il est conçu à Paris en 1892, puis transporté en Aveyron par le chemin de fer dans 160 caisses. Mmh. Et il est inauguré le 17 octobre donc 1892, de la même année. Mmh. Le monument en pierre comprend en son centre une statue grandeur nature en prière et en habit d'apparat de Marie Talabot. Cette statue est l'œuvre du sculpteur Louis-Ernest Barrias. Il a réalisé cette statue et également un des quatre bas-reliefs qui se trouvent sur les quatre côtés du monument. Les trois autres bas-reliefs ont été sculptés par notre cher compatriote Denis Puech.
Ah ouais, d'accord, ok.
Voilà, notre cher Denis Puech. Alors, si le sujet vous a intéressé, je vous conseille d'aller visiter Saint-Geniès. Mmh. C'est une
belle ville,
une petite ville ou un gros village, très très beau. Ouais, il y a vraiment de très belles maisons. Ouais. Puis au bord du Lot, avec le pont qui traverse, c'est vraiment charmant. Ouais. La mairie, vous verrez, c'est un ancien bâtiment avec un cloître au milieu qui se visite juste en traversant. Là, c'est magnifique. Hein. Donc allez-y. Et puis bien sûr, vous pourrez aller voir ce fameux. Vous pourrez aller rendre visite à Marie en allant voir ce splendide monument qu'on peut voir de partout et qui surplombe à la fois la vallée du Lot et la ville de Saint-Geniès.
On peut y accéder en voiture, il y a une route ou il faut grimper en rappel?
Alors moi j'y suis allé par un côté, peut-être pas le meilleur côté, parce que le cimetière est au-dessus. Alors c'était catastrophique en voiture. C'est pas moi qui conduisais. On a eu une très très belle commémoration avec une école de gendarmerie où il y a eu 120 gendarmes à peu près qui sont venus à Saint-Geniès cet été et qui devaient faire une des deux cérémonies, la remise des képis autour de ce monument-là. Ouais.
Finalement, ils ont laissé tomber.
Finalement, ouais, parce que ils sont arrivés avec 2 heures de retard.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Et donc on a tout fait au niveau du monument aux morts dans le village. Mmh. Mais on y est monté en voiture avec un ami qui conduisait. J'ai vu, j'y retournerai pas.
Ok, on l'a compris.
Mais je crois qu'il y a un accès par l'autre
plus
côté.
Simple. D'accord.
Voilà, pour accéder plus facilement au cimetière qui est juste au-dessus. Mmh. Voilà, à pied ça se fait très bien. Mmh. En voiture, il y a un côté, je vous le conseille pas. L'autre, je connais pas.
Oh. Voilà, ben non, mais c'est important.
Ouais. Alors, également, si le sujet donc vous a intéressé, si vous voulez approfondir un petit peu plus, bon, nous, on est toujours assez limité dans la mémoire aveyronnaise par le temps, donc c'est vrai qu'on survole un petit peu toujours les sujets. Je vous conseille un très 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 bon livre. Je crois d'ailleurs que tu as reçu son auteur pour en parler ou que tu l'as déjà croisé. C'est Louis Mercadier.
Oui.
Et son livre s'appelle tout simplement Marie Talabot. Une Aveyronnaise dans le tourbillon du 19e siècle. Il a été édité, ce livre, en 2007 aux éditions du Rouergue.
C'est parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup, Vincent, pour ce nouveau numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, évidemment.
Merci
à toi. On se retrouve dans 2 semaines.
Oui. Aucune idée.
Ok. Je ne demande pas d'indice.
Aucune idée.
Okay,
non, pas d'indice. Ça sera la surprise. Même moi, j'en ai aucune idée.
Bon, écoute, ça sera la surprise.
Ça sera la surprise.
Merci beaucoup, Vincent.
Mais merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.